Radio Prague, les informations. Bonjour, les députés ont outrepassé le veto du président Zeman sur la loi relative aux conflits d'intérêts. Une déclaration du chef de l'État selon laquelle un terroriste islamiste opérerait sur le sol tchèque a suscité de vives critiques. Et puis enfin en sport, en hockey sur glace, le Sparta Prague a fait un grand pas en direction de la finale de la Ligue des Champions. À l'issue d'un débat très animé, la Chambre des députés a renversé ce mercredi le veto qu'avait mis le président de la République, Miloš Zeman, à la version renforcée de la loi qui doit permettre de lutter plus efficacement contre les conflits d'intérêts. 129 des 185 députés présents ont de nouveau voté en faveur de son adoption, comme l'avait déjà fait le Parlement à l'automne dernier. Qualifié aussi d'anti-babiche, cet amendement doit permettre notamment de limiter les activités des membres du gouvernement dans le monde des affaires qui pourraient influencer l'exercice indépendant de leurs fonctions publiques. Le texte empêche également les ministres d'être les propriétaires de médias. Vice-premier ministre, ministre des Finances et leader du mouvement ANO, le milliardaire Andrei Babiš en est la principale cible. Parallèlement à ses fonctions publiques, Andrei Babiš est également en effet le président d'un important groupe agroalimentaire et d'un groupe de médias. Politique toujours, une personne soupçonnée de collaborer avec des organisations terroristes islamistes se trouve actuellement en République tchèque. C'est du moins ce qu'a indiqué le président de la République dans une interview diffusée ce mercredi par la radio tchèque. Miloš Zeman a précisé, je cite, qu'il s'agissait d'un maghrébin. Cette déclaration a fait l'objet de nombreuses et vives critiques, notamment dans les rangs politiques. Beaucoup ont reproché au chef de l'État de menacer la sécurité de l'État, de semer la panique ou encore de discréditer le pays à l'étranger. De leur côté, les services de renseignement, le ministre de l'Intérieur ainsi que le Premier ministre Bohuslav Sobotka ont réagi en faisant savoir qu'ils ne disposaient d'aucune information indiquant qu'une attaque terroriste se préparait en République tchèque. Histoire, les scientifiques de l'Institut archéologique de l'Académie des sciences ont procédé à de premières recherches concernant le point d'impact d'un avion tombé pendant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire du protectorat de Bohême et de Moravie. Le bombardier, un B-17G des forces armées des États-Unis, s'était écrasé le 24 mars 1945 près de la ville de Rychnov nad Kněžino, dans la région de Hradec Králové en Bohême de l'Est, alors qu'il devait bombarder la ville de Berlin aux côtés de 26 autres avions. Les archéologues ont examiné le lieu du crash à l'aide d'un drone et ont notamment découvert de nouvelles pièces de l'appareil ainsi que des munitions. Culture littérature, une grande biographie consacrée à l'écrivain Franz Kafka, écrite par l'historien allemand Rainer Stach, sort pour la première fois en version tchèque, rédigée pendant 18 ans, notamment en raison d'un procès relatif à l'héritage de Max Brod. Max Brod, ami de Franz Kafka, est propriétaire de certains de ses manuscrits. Cet ouvrage présente l'artiste et son œuvre dans le vaste contexte littéraire et culturel de son époque, intitulé « Les jeunes années ». Le premier tome sort aux éditions Argo et décrit également la situation sociale et religieuse à Prague dans les années 1880. On passe au sport et au hockey sur glace. Grâce à des buts inscrits dans le premier tiers-temps par deux de ses joueurs slovaques, le Sparta Prague s'est imposé 2-1 sur la glace de Växjö mardi soir en match aller des demi-finales de la Ligue des Champions, de hockey sur glace donc. Cette victoire en Suède permet ainsi aux Pragois d'entretenir de sérieux espoirs de qualification pour la finale de la compétition. Il s'agirait de la première qualification de l'histoire d'un club tchèque pour la finale de la Ligue des Champions. Le match retour de la demi-finale, en attendant, sera disputé à Prague. Ce sera mardi prochain et ce, devant un public probablement très nombreux. On termine ce bulletin avec un mot de météo. Si le ciel reste très chargé, avec de très probables chutes de neige durant la nuit sur l'ensemble du territoire, le mercure remonte quelque peu et il fait moins froid en République tchèque ce jeudi. Jeudi qui est le jour de la fête des Pravoslaves. Les températures sont même positives puisqu'elles varient entre 1 et 3 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Quel plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. C'est avec le même plaisir que l'on retrouve maintenant Denisa Tomanova. Denisa qui nous accompagne pour la suite de ce programme dont nous vous souhaitons bien entendu une excellente écoute. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue à l'écoute d'une nouvelle émission de Radio Prague. Merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. Trois sujets figurent au sommaire de notre programme. Les députés tchèques ont de nouveau voté en faveur de l'amendement à la loi sur la TVA qui prévoit une baisse du taux appliqué à la presse. Les parlementaires ont ainsi outrepassé le veto du président et c'est Pierre Mignan qui vous en dira plus dans quelques instants. Comme partout en Europe, la vague de froid traverse également la République tchèque depuis la fin de la semaine dernière. Depuis vendredi, le froid a déjà fait 6 victimes dans le pays. Nous allons nous intéresser à la situation dans quelques minutes. Et dans la deuxième partie de notre programme, nous allons retrouver la rubrique « Les chapitres de l'histoire » dans laquelle Pierre Mignan évoquera la Silésie au XVIIe siècle, et ce dans un entretien réalisé avec l'historien Nicolas Richard. C'est Denis Satomanova qui aura le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Excellente écoute à vous tous sur Radio Prague. Et si pour faire face aux difficultés de la presse tchèque, il suffisait d'en réduire le prix de vente en abaissant le taux de TVA? C'est le pari des députés qui ont validé mardi la proposition de loi élaborée par leurs collègues communistes afin que le taux super réduit de 10% s'applique à la presse. Ils ont ainsi outrepassé le veto présidentiel et l'avis du gouvernement, lequel y voit surtout un manque à gagner pour les caisses de l'État. Plus de détails avec Pierre Mignan.
Avec la diversification des moyens d'accéder à l'information, les titres de presse sont dans la tempête depuis maintenant bien des années. La baisse du taux de TVA appliqué aux journaux et aux magazines de 15 à 10% est donc censée leur donner un nouveau bol d'air. C'est ce que semblent penser les parlementaires. En décembre, ils avaient déjà donné leur aval à la proposition de loi. Les députés viennent de faire de même pour renverser le veto opposé par le chef de l'État Miloš Zeman. À l'instar du gouvernement de Bohuslav Sobotka qui conseillait de s'opposer à une mesure au résultat jugé pour le moins incertain, le président ne voyait rien de bon là-dedans et son porte-parole Jiří Ovčáček avait expliqué pourquoi.
Le président a aujourd'hui mis son veto à la loi sur la baisse de la TVA sur les journaux et les magazines. Il s'associe ainsi à la position du gouvernement et ne voit aucune raison d'accorder quelque avantage fiscal que ce soit à ce bien, sinon de céder aux pressions liées au lobbying des éditeurs de ces titres.
Le ministre des Finances, Andrei Babiš, par ailleurs propriétaire de plusieurs journaux parmi les plus vendus du pays à travers le groupe de presse Mafra, n'était lui-même pas favorable à un projet qui risque de représenter un manque à gagner pour le budget de l'État. Les députés ont fait fi de leurs avis et 133 d'entre eux, issus de presque tous les partis politiques représentés à la chambre basse du Parlement, ont voté pour l'adoption définitive de la proposition de loi. Ils ont ainsi été sensibles aux arguments des parlementaires communistes qui en sont à l'origine, tels que Jiří Dolejš.
Ce sont surtout les titres à faible tirage qui rencontrent le plus de difficultés. Je voudrais rappeler que de façon générale, les tirages sur le marché durant ces 10 dernières années ont connu une baisse de plus de 55%.
Journaux et magazines baisseront-ils leurs prix pour doper leurs ventes ou bien profiteront-ils de la mesure pour bénéficier de marges plus importantes? Difficile à dire pour l'heure, d'autant plus que le succès d'un titre de la presse nationale n'est sans doute pas seulement fonction des tarifs pratiqués. Sur Radio Prague, l'historien des médias Jan Čebe regrettait par exemple le manque de pluralité de la presse tchèque.
Un nouveau quotidien aurait du mal à s'imposer sur le petit marché tchèque, notamment parce qu'après novembre 1989, la société tchèque a en quelque sorte demandé aux médias de faire preuve d'objectivité, de neutralité et d'impartialité. Même si les médias tentent de se conformer à un tel modèle, elles ne fournissent jamais d'idées radicalement différentes ou de débats riches. Cette tendance de l'après-1989 est quelque chose de nouveau qui est historiquement étranger à la tradition des médias tchèques.
L'échec de la version tchèque du magazine américain Newsweek, qui a mis la clé sous le tapis au mois de décembre après un an de parution, illustre bien la difficulté pour un nouveau périodique de s'imposer sur le marché tchèque. Mais peut-être que la baisse de la TVA y changera quelque chose.
Depuis la fin de la semaine dernière, la vague de froid intense venue de Scandinavie qui a figé l'Europe a déjà fait plus de 60 victimes. La République tchèque, elle aussi frappée par cette vague, fait pour l'instant état de 6 victimes, dont 3 à Prague. Les personnes les plus vulnérables restent évidemment les sans-abri. Si la Pologne est le pays le plus touché par cette vague de froid, des records de température ont également été enregistrés ces derniers jours en République tchèque. Dans la nuit du samedi à dimanche, le parc de Šumava a enregistré la température la plus faible, à savoir moins 34,6 degrés. Dans la nuit de mardi à mercredi, le point le plus froid a été enregistré à Rokitská Slatí, toujours dans le parc de Šumava, où il a fait moins 27,5 degrés. Dans la majorité des cas, les températures nocturnes variaient entre moins 18 et moins 13. Depuis vendredi dernier, la vague de froid a fait 6 victimes dans le pays. Le porte-parole des services ambulanciers, Dominik Horn, a indiqué que 4 des 6 victimes étaient des personnes sans domicile fixe. Dans la mesure où ces dernières sont les personnes les plus touchées, la ville de Prague propose 2 principaux centres d'accueil. Un premier centre est situé sur la péniche Hermès, sur la rivière Vltava, sous le pont Štefánek, tandis que le second centre se trouve dans le 3e arrondissement de la capitale tchèque. À Prague, il y a donc près de 800 places disponibles destinées aux sans-abri. En fin de semaine dernière, la capacité d'accueil des centres n'était toutefois remplie qu'à 80%, mais les places se remplissent très vite depuis, d'autant plus que l'accès y est désormais gratuit. Le directeur des services sociaux de l'armée du salut, Jan František Krupa, a fait savoir à ce sujet.
Nous sommes en mesure de réagir lorsque nous obtenons des informations de la part de citoyens qui nous alertent à propos de personnes dans la rue qui pourraient mourir de froid. L'armée du salut peut alors intervenir dans de telles situations. Ces travailleurs peuvent conduire la personne dans le centre d'accueil de l'armée du salut ou dans un autre centre.
Certains centres d'accueil de jour proposent également aux sans-abri de dormir dans des salles de jour. Les autres grandes villes tchèques comptent élargir, elles aussi, les capacités des centres d'accueil destinés aux sans-abri. Des travailleurs sociaux se relaient notamment dans la distribution de nourriture, de couvertures supplémentaires ou de vêtements. Pour la première fois, des jeunes scolarisés les aident dans cette tâche, comme l'explique Radim Negrin, organisateur du projet Hrdá škola, école fière.
Les écoles ont sílu v tom ukázat těm dětem, že je potřeba myslet na druhý lidi a zároveň je to možnost.
Les écoles ont cette force qu'elles peuvent montrer aux élèves qu'il est nécessaire de penser aussi aux autres. Et en même temps, cette initiative représente une autre possibilité pour récolter beaucoup de vêtements.
Zároveň je to možnost, jak nasbírat hodně oblečení.
Les 2 autres victimes du froid en République tchèque sont décédées à 2 endroits différents, dans la ville de Karviná, en Moravie-Silésie, et dans la ville de Brno. Les services des montagnes de Jeseníky et des monts géants mettent également en garde contre le risque d'avalanche qui se situe actuellement au niveau 3. Le froid complique également la situation dans les transports et ce principalement dans la région de Liberec où de fortes rafales de vent sont attendues. Les météorologues prévoient de nouvelles chutes de neige sur l'ensemble du territoire à partir de ce mercredi soir. Néanmoins, l'Institut hydrométéorologique tchèque prévoit une légère hausse des températures à compter de jeudi, mais une nouvelle vague de froid est prévue pour le début de la semaine prochaine. Quand on évoque les provinces historiques de la République tchèque, il est toujours question de la Bohême et de la Moravie, et rarement de la Silésie. Pourtant, cette région, située principalement aujourd'hui en Pologne, a longtemps appartenu à la couronne de Bohême. C'est ce que rappelle opportunément le dernier numéro de la revue 17e siècle, consacré à la Silésie durant ce siècle. Pour en parler sur Radio Prague, l'historien Nicolas Richard, auteur d'une thèse sur la Bohême religieuse depuis le Concile de Trente jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Pourquoi étudier la Silésie? C'est le titre de l'article introductif de ce numéro qu'il signe avec Olivier Chaline. Pourquoi cet intitulé? C'est la première des questions que Pierre Mignan lui a posées.
Chapitre de l'histoire.
C'est un titre qui part en fait d'un étonnement parce qu'il est certain que pour un Français, le mot Silésie, la province de Silésie, ça évoque bon, une province polonaise actuellement, qu'on sait une ancienne province allemande. Pour les plus cultivés d'entre nous, on se souvient vaguement qu'au XVIIIe siècle, lors des guerres entre la Prusse et Marie-Thérèse, la Silésie a été le grand enjeu et que la Prusse a pris la Silésie à Marie-Thérèse, mais de là à se souvenir qu'au XVIIe siècle, la Silésie, c'était une province de la couronne de Bohême. Il y a évidemment un fossé, et rares sont les Français qui se souviennent que la Silésie, pendant des siècles, a appartenu à la couronne de Bohême. Et c'est en partant de cette constatation simple qu'on s'est posé la question, pourquoi étudier la Silésie ? Parce que la Silésie, justement, au XVIIe siècle, c'est un espace qui appartient à la couronne de Bohême. Il ne faut pas oublier que la plus grande abbaye baroque de la monarchie des Habsbourg, elle se trouve non pas dans la vallée du Danube, mais elle se trouve en Silésie.
Alors c'est un objet que les historiens tchèques eux-mêmes ont mis du temps à s'approprier, vous l'écrivez. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette historiographie tchèque de la Silésie au XVIIe siècle et quelles seraient les questions qu'aujourd'hui les historiens se posent au sujet de la Silésie ?
L'historiographie tchèque est née avec Palatsky. On le sait, la tradition de Palatsky, c'est d'étudier le peuple tchèque en tant que nation, en tant que gens qui parlent la langue tchèque. Et partant de là, il est évident qu'il n'y avait pas tellement de place dans l'historiographie tchèque pour la Silésie. Alors les choses ont beaucoup changé ces dernières décennies, notamment depuis les années 2000. La Silésie, c'est un exemple parfait de ce qu'on peut faire de mieux en termes de collaboration entre historiens allemands, historiens polonais, historiens tchèques, qui tous ont quelque chose à dire sur la Silésie et qui collaborent très bien. Notamment, il y a eu ces grandes expositions sur la Silésie. Alors, ce qui intéresse évidemment les historiens tchèques dans la Silésie, c'est de voir ce que voulait dire pays de la couronne de Bohême, dont la Silésie faisait partie. C'était de voir aussi les influences culturelles, les influences sociales, et les influences politiques, bien sûr, entre la Silésie et le royaume de Bohême proprement dit. Et là, on trouve des circulations très intéressantes, notamment artistiques, des circulations sociales, etc., etc.
C'est un territoire assez morcelé entre l'organisation religieuse, administrative, politique. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisation de ce territoire au XVIIe siècle ?
Tout d'abord, c'est un territoire qui appartient au pays de la couronne de Bohême, donc qui relève du roi de Bohême, qui se trouve être l'empereur Habsbourg. Ensuite, c'est un territoire qui appartient au Saint-Empire romain germanique, donc dont le souverain, l'instance suprême, c'est là encore l'empereur Habsbourg, mais cette fois non pas en tant que roi de Bohême, mais en tant qu'empereur romain germanique. C'est enfin un territoire qui dépend, notamment du point de vue religieux, en partie de la Pologne. Et comme c'est une ancienne province polonaise, c'est une province qui a encore au début du XVIIe siècle certains princes qui sont de souche royale polonaise. C'est un territoire aussi qui a des liens économiques très forts avec la Pologne. Donc c'est un territoire qui est vraiment entre le Saint-Empire, les pays de la couronne de Bohême et la République de Pologne. Du point de vue religieux, on a une terre qui a été très vite sensible à la réforme luthérienne. Mais cette réforme luthérienne s'est en fait paradoxalement imposée assez tard, et donc les curés catholiques qui meurent dans la deuxième moitié du XVIe siècle sont remplacés par des pasteurs luthériens, mais ça se fait finalement assez tard, comme vous voyez. Très rapidement, il y a la contre-réforme au moment de la guerre de 30 ans, contre-réforme qui est un enjeu à la fois religieux et aussi politique, puisqu'en 1707, c'est une convention internationale qui précise les statuts des églises luthériennes et réformées de Silésie. D'autre part, du point de vue linguistique, on a un espace qui est séparé entre des populations qui parlent allemand, des populations qui parlent polonais. Ces populations de langues différentes, il est toujours difficile de savoir à quel point la langue était pour elles un élément d'identité et à quel point la langue était pour elles simplement un instrument de communication. Quelle était la part de gens qui parlaient plusieurs langues, etc. C'est des choses que les sources ne permettent pas forcément de dire.
Donc on est bien loin du schéma national qu'on a aujourd'hui. Sur cette polarisation, cette multipolarisation entre Pologne, Empire, couronne de Bohême, vous écrivez que le duché de Silésie n'est pas compréhensible sans son réseau d'allégeance. Comment ça se manifeste au XVIIe siècle, cette multipolarisation ?
Alors, justement, bon, il est difficile actuellement de comprendre comment fonctionnaient ces allégeances croisées, de comprendre comment on peut se sentir à la fois silésien, sujet de la couronne de Bohême, en même temps membre du Saint-Empire et en même temps avec une relation particulière à la Pologne. C'est des choses qui sont extrêmement difficiles à comprendre parce qu'on a des schémas un peu simplistes qui découle de notre façon de voir le monde. Et donc, tout l'enjeu était de voir un peu comment, dans ce numéro, était de voir un peu comment cela se déclinait. et notamment par exemple l'article de Madame Gabriela Wąs qui a écrit sur les rapports entre Pologne et Silésie est très clair en montrant bien que ces allégeances croisées ne sont pas forcément exclusives les unes des autres. Et ce que montre aussi dans ce numéro le gros article de Radek Fukala est que ces choses varient au cours du temps selon la conjoncture politique. Les choses sont très différentes.
Alors au XVIIe siècle, c'est un territoire qui est marqué par de nombreuses guerres. C'est aussi un territoire qui se trouve sur le passage des armées dans une vallée. Il y a notamment eu la guerre de 30 ans qui a marqué ce territoire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment la Silésie ressort de ce siècle marqué par des guerres ?
La guerre de 30 ans a été très certainement une grande catastrophe pour tout le Saint-Empire, mais particulièrement en Silésie. La Silésie a été occupée, a vraiment été un champ de bataille, et les Suédois n'ont quitté la Silésie que fort tard, non pas en 48, mais dans les années qui suivent. Ensuite, il faut tout réorganiser, et la réorganisation se fait sous l'égide des Habsbourg assez rapidement. Là, il y a un grand ménage qui est fait. C'est notamment le moment où un certain nombre de temples luthériens, un grand nombre, plusieurs centaines, sont confiés à des catholiques, des pasteurs sont expulsés, etc. Bref, on réorganise la Silésie pour repartir sur un autre modèle qui est celui d'une province plus soumise aux Habsbourg, mieux organisée et avec moins de... avec une présence catholique plus importante qu'auparavant. Cette réorganisation, en fait, dure jusqu'en 1707, puisque la fameuse convention d'Alprandstedt, qui reprécise les liens entre les différentes confessions en Silésie, cette conférence, je vous disais, était un enjeu international, et elle ne fait en fait que préciser des documents diplomatiques qui ont été pris au milieu de la guerre de 30 ans avec le protocole annexe de la paix de Prague et avec les traités de Westphalie.
Alors vous avez déjà abordé cet aspect religieux puisque c'est d'abord un territoire plutôt protestant qui va ensuite sous l'influence des Habsbourg retourner vers le catholicisme. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est qu'au début du XVIIe siècle, il y a beaucoup de groupes sectaires qui se sont installés en Silésie. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi et comment ces groupes vont évoluer ?
Alors bon, ces groupes sectaires, on les retrouve assez souvent dans les pays de la couronne de Bohême ou en Pologne, où la possibilité pour ce type de groupe de survivre est beaucoup plus pressante qu'en Europe occidentale. Donc il y en a énormément en Silésie, c'est vrai. Ensuite, ces groupes évoluent au cours du temps et notamment pendant la guerre de 30 ans, souvent basculent en partie dans la clandestinité. Alors certains historiens tchèques et allemands ont très bien suivi les itinéraires de ces plus grands penseurs de ces groupes sectaires. Je pense notamment à ce qu'a fait Vladimir Urbanek sur ces questions. Alors l'intérêt de la Silésie, c'est que c'est aussi pour ce genre de gens un territoire carrefour qui permet d'être en contact non seulement avec le monde du Saint-Empire, mais aussi avec ce qui se fait en Pologne, dans les autres pays de la couronne de Bohême et en Hongrie. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, ce n'est plus la question, ils sont partis ou ils ont définitivement abandonné leur vision millénariste, ou du moins ils se font extrêmement discrets.
Enfin, Nicolas Richard, peut-être parlons de l'aspect culturel de la Silésie, puisque c'est un territoire qui est plutôt en périphérie du monde germanique et pourtant qui brille culturellement, notamment par sa littérature.
En effet, la littérature silésienne à l'époque baroque, c'est la grande littérature d'expression allemande. Alors il est assez paradoxal de constater que dans une province qui est malgré tout éloignée des centres culturels, du moins ce que les Français voient comme centre culturel du Saint-Empire, que c'est justement dans cette province que l'on trouve les plus grands auteurs baroques d'expression allemande. Alors il y a Martin Opitz avec son livre de la poésie allemande, il y a les fameuses tragédies de Lohenstein, mais il ne faudra pas oublier non plus, bon, même s'il est surtout à la limite entre le latin et l'allemand, Angelus Silesius, qui est quand même un des grands mystiques de l'époque. Donc on a toute cette école silésienne de littérature d'expression allemande. Alors ce n'est pas tellement étonnant si l'on voit l'importance culturel qu'avait la Silésie avec tous ses collèges de différentes confessions. Et il ne faut pas oublier non plus l'importance artistique au point de vue de l'architecture, de la sculpture, de la peinture de la Silésie. Alors là, la chronologie n'est pas tout à fait la même, puisque on est à cheval entre fin 17e et début 18e siècle. Et c'est à cette époque où l'on reconstruit notamment les abbayes baroques avec des décors qui sont d'une richesse absolument extraordinaire, avec des façades qui sont d'une longueur qui n'est jamais atteinte dans toute la monarchie. Et là, les artistes présents en Silésie, de souche silésienne, rayonnent dans tous les pays Habsbourg et un certain nombre de grands artistes. Mais en fait, plus ponctuellement, parce qu'on n'en a pas besoin, un certain nombre de grands artistes viennent en Silésie. Et il y a un exemple tout à fait particulier qu'a bien étudié Paweł Migaszewicz, celui d'un artiste qui finit sa carrière en Silésie après être passé sur le chantier du Val-de-Grâce à Paris et donc avoir fait un itinéraire depuis l'Europe centrale jusqu'à l'Europe centrale en passant par Paris et par les grands centres culturels européens, ce qui en dit quand même long sur la qualité des arts figuratifs à cette époque-là.
Merci beaucoup à Nicolas Richard de nous avoir offert ce petit aperçu de la Silésie au XVIIe siècle.
Chers amis, c'est la fin de notre programme en langue française sur Radio Prague. Pour plus d'informations sur l'actualité tchèque, n'hésitez pas à retrouver nos pages sur les réseaux sociaux ou tout simplement au www.radio.cz/fr. C'est Denisa Tomalova qui a eu le plaisir de vous présenter cette émission. Merci de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute sur Radio Prague.